cours de philosophie première par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 13 juin 96.
Il y a deux questions. Les déterminations individuelles, ce qui fait la ratio personnalité, ce qui fait notre personnalité. Substantiel de la personne, on inclut donc là toutes ces déterminations de notre personnalité, toutes ces déterminations individuelles. L'individu fait partie de la personne, c'est sûr. Il n'est pas la personne, mais il fait partie de la personne. Je ne peux pas opposer, comme fait Maritain, individu et personne. Quand Maritain étudie ce que la personne, il l'oppose à l'individu. Alors que je crois qu'il faut dire que la personne assume l'individu. Et que l'individu comme tel n'est pas la personne. Et tout problème de l'individuation qui relève du corps et de la quantité, et qu'elles font partie du conditionnement de la personne. C'est le conditionnement de la personne. Alors évidemment, cela joue beaucoup lorsqu'on regarde l'équilibre différent, ce qu'on disait hier, l'équilibre différent des différents éléments intégrés dans la personne. Tout ce qui est individuel, qui est le plus manifeste, c'est visible. L'individuation de chacun, c'est visible. Tandis que la recherche de la vérité et la capacité d'aimer, ça, c'est pas visible. Alors, si on prend une philosophie qui est avant tout descriptive, il est évident que les notes individuelles deviendront la détermination de la personne. Tandis que si on analyse au plan philosophique les caractères individuels de chacun, ne déterminent pas la personne, mais font partie de ce conditionnement substantiel. Découverte antérieure de ce qui est en tant qu'être nous ont conduit à saisir la substance ousia comme principe et cause. Et la détermination de ce qui est l'être est ultimement l'acte énergéia, comme cause et principe selon la fin de ce qui est, qui donne toute l'intelligibilité de l'être que nous sommes. Comment alors la recherche de la personne humaine peut-elle de nouveau s'imposer aux philosophes? Les deux principes antérieurs ne lui donnent-ils pas la lumière sur la personne, objet de son expérience? N'oublions pas comment nous sommes arrivés à poser la personne. J'ai une expérience tout à fait particulière de mon « je suis ». Et pour le philosophe, dès qu'il y a des expériences particulières, ça l'intéresse. Quand je dis mon je suis, j'ai une expérience de l'être, de ce qui est tout à fait particulière et qui m'est tout à fait personnel, propre. Et j'étudie ce je suis. Et je vois que ce je suis implique l'autonomie, la substance, implique l'acte, la finalité, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, je suis parti d'une expérience, l'expérience de l'unité et de la complexité de mon être, de ma manière d'être. Et la personne, c'est un pouce d'une manière d'être, c'est pas un principe. C'est ça que j'avais beaucoup insisté au début. Alors ne l'oubliez pas. Et ne ramenez pas la personne à la substance, à l'acte, non. La personne implique tout cela, mais n'est pas tout cela. Elle est plus, elle implique la totalité. Et dans une unité, dans une harmonie de la substance, de l'acte. Et c'est pour ça du reste qu'il y a expérience de la personne. Vous n'avez pas une expérience de votre substance. Vous l'induisez, la substance. Vous induisez l'être en acte. Tandis que vous avez une expérience de votre personne. C'est pour ça que quand on touche à votre personne, vous êtes particulièrement nerveux. On touche à quelque chose. Et vous dites, c'est pas ça. Et vous avez parfaitement le droit de dire, vous me regardez de l'extérieur. Vous jugez selon vos apparences. Et vous ne jugez pas selon la réalité. Il y a quelque chose là, vous voyez, qui est tout à fait propre à cette expérience métaphysique de la personne. C'est une expérience métaphysique, la personne. Que je peux essayer de comprendre les différents éléments, les différentes déterminations. Alors c'est pour ça que quand je dis les sept déterminations de la personne, c'est d'essayer de comprendre tous les éléments essentiels à la personne. Vous voyez, l'individuation est un élément essentiel de la personne. Puisque le corps fait partie de mon être. Il est le conditionnement substantiel. L'individu est un conditionnement essentiel et substantiel de ma personne. Il y a un conditionnement. Il ne me détermine pas. Et ce que vous disiez hier, la diversité des personnes, c'est la diversité des personnalités implique un équilibre différent, une harmonie différente de ces différents éléments. Il est bien évident que si, dans ma vie, j'ai choisi la découverte de la vérité, la recherche de la vérité, j'ai choisi ça comme élément essentiel et primordial. Au bout d'un certain temps, ma personnalité aura un caractère spécial qui ne sera pas la personnalité de ce dans sa vie chercher la vérité. Il restait à ce que les hommes disent, à ce que les informations disent sur l'homme, sur la morale. N'a jamais cherché. Quelqu'un qui est un sportif, il développe énormément son individualité. C'est évident. Il y a certaines données qui font que quelqu'un peut devenir un sportif, un autre très difficilement. Parce que celui qui est malade dans son corps, mais qu'il n'essaie pas d'être un sportif numéro un athlète. Tandis que celui qui a un corps qui lui permet cela et qui développe ça, bon, et la personne ne sera pas modifiée quant à ses déterminations, mais quant à sa manière, son conditionnement. Et c'est pour ça qu'il faut bien saisir que la personne est un tout. Je vous l'ai dit dès le début. C'est de l'ordre du pos, de la manière d'être. Ce n'est pas un principe. C'est très important, ça. À bien saisir. Donc, vous voyez, la scolastique décadente ne cherchait que les principes et ne s'occupait pas du tout du pos. Et je crois que c'est la raison pour laquelle la scolastique décadente n'a jamais intégré la personne dans sa métaphysique. Regardez Emmanuel Thomiste, Macquart. C'est le dernier, je crois qu'il n'a pas eu après. J'ai connu l'apparition de Macquart. C'est Emmanuel Thomiste, Emmanuel philosophique. Regardez ce qu'il dit sur la métaphysique. Regardez le petit livre du père Gardel sur la métaphysique de saint Thomas. Alors vous comprendrez tout de suite qu'au fond, la personne n'est pas inscrite dans leur métaphysique. Alors que si je suis attentif à ce que dit Thomas d'Aquin, je vois que Thomas d'Aquin est le théologien de la personne, bien plus que de la nature. La personne assume la nature, mais la personne ne se ramène pas à la nature. Animal raisonnable, c'est assumé dans ma personne. Évidemment, il y a des personnes qui sont plus animales et d'autres qui sont plus intelligentes. C'est sûr, le cocktail est différent. Mais il y a des personnes humaines qui sont terriblement génériques, animales. Ils n'ont développé que cela. Et puis il y a des personnes qui ont très fort développé l'aspect de l'intelligence, recherche de la vérité. Mais c'est ça que je voudrais que vous compreniez. C'est relativement facile. Parce qu'on s'aperçoit que cette expérience de la personne est très variée. Elle est unique. Chaque personne est unique. L'équilibre en vous, alors c'est plus ou moins conscient. Si vous étiez vraiment une véritable personne humaine, vous seriez très conscient des choix que vous avez faits et que ces choix ont orienté l'équilibre, l'harmonie. en êtes conscient. Si vous n'en êtes pas conscient, l'aspect générique l'emporte. Et l'aspect spécifique laisse passer le genre devant. Vous êtes un très bel animal. Regardez-moi, je suis un animal parfait. Donc je suis une personnalité parfaite. Mais vous comprenez la différence. Et voyez tout de suite la différence. Et dans l'éducation, les deux éléments sont présents. Puisque c'est la personne qu'on forme. C'est pas la nature qu'on modifie. C'est la personne qu'on forme. Et c'est ça qui est important à comprendre. Mais qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans l'éducation, cherche la personne ? Cherche à harmoniser tous les éléments de la personne. Mais si vous êtes à un point de vue psychologique, vous ne pouvez pas savoir ce qu'est la personne humaine. Saint-Jean. la recherche de la vérité n'a pas bougé d'un pouce pour 2 ans. Mais le tempérament a changé. On est devenu 3 fois plus bilieux. Tu n'es pas fait pour Saint-Jean. Oui, on pourrait très bien faire ça, c'est un petit jeu. Très amusant. On aurait les différentes modalités. La sagesse joue. Et je crois que la sagesse joue là. En voyant ces différentes personnalités. Mais, vous voyez, c'est des modalités, des personnalités. C'est des équilibres différents. La grande question, y a-t-il comme seconde question, est-ce que ce n'est pas la paternité et la maternité qui nous montrent la personne dans son maximé étalé ? La personne humaine dans ce qu'elle a de plus merveilleux. Il y a une question qui se pose. Et je dois la poser. En comprenant du reste, paternité et maternité, non seulement au plan biologique, au plan éducation, mais aussi au plan chrétien. Est-ce qu'au plan chrétien, on verra ça la fois prochaine, est-ce qu'au plan chrétien, la paternité et la maternité ne sont-elles pas les personnes chrétiennes maximées d'aller ? Ce serait très intéressant, ça. Parce que, vous voyez, ça ferait comprendre pourquoi la théologie de saint Thomas est une théologie de la personne. Et ça nous éclairerait énormément sur le point de vue de l'éducation chrétienne. Et donc, au noviciat, c'est une éducation chrétienne. C'est une super éducation chrétienne. Ça, c'est sûr. Quelqu'un qui n'a pas fait de noviciat, il y aura toujours quelque chose qui lui manquera. Les vieux Permet disaient ça. Ils disaient la qualité du noviciat va être la qualité de toute la vie religieuse. Il y a quelque chose de juste. Vous voyez, quand les psychologues disent que les 3 premières années sont irremplaçables. Personne humaine. une finalité nouvelle qui se développe dans la famille. Et alors, quel est le caractère propre de cette personne? Qu'est-ce qui fait que il y a un père et une mère, et que c'est quelque chose de capital, et quand Freud veut tuer le père, et quand le super freudien veut tuer la mère, il les tue dans l'humanité.
Manifestation qu'il était royal.
naissance d'une famille, père et mère, qu'on ne voit pas chez les autres animaux. Alors, ceci n'est que de l'ordre de la disposition. Dans l'homme, chez l'homme. Mais c'est pour ça que la destruction de la famille, comme il se fait actuellement, la destruction du caractère spécifique de la famille, c'est très, très grave. C'est le signe d'une humanité qui se désagrège et qui retourne au genre animal. Or, on assiste à cela. Donc, il faut au moins en être conscient. On ne peut pas faire grand-chose pour redresser. Et c'est très net. Puis alors, la personne du père, la personne de la mère, humaine, ce qu'il y a de plus digne. Yeah. ça que Thomas d'Aquin n'hésite pas à te dire que la paternité et la maternité ne peuvent être assumées et donc offertes au Christ que dans la vie contemplative. La vie contemplative seule, c'est-à-dire la recherche de la vérité. La vie contemplative seule permet le dépassement de la paternité et la maternité. C'est pour ça que le célibat du prêtre ne peut être vécu que s'il y a un désir de vivre les béatitudes évangéliques. Et en ce sens-là, la vie religieuse qui veut vivre les béatitudes évangéliques devient gardienne du célibat du prêtre. Et la vie contemplative permet à la femme de dépasser l'appétit naturel de la maternité. Autrement, ce sera un refoulement. Ce ne sera pas assumé. Ce sera un refoulement. Alors, un refoulement tient un certain temps. Et à un moment, il est en situation limite. Il faut voir ça philosophiquement. Et c'est pour ça que c'est si important de comprendre que la paternité et la maternité, on est en présence d'un type particulier de la personne humaine. Alors, au plan de la vie végétative, seule la procréation, donc la paternité et la maternité, finalise la vie végétative. Au plan passionnel, de la vie passionnelle, l'amitié entre l'époux et l'épouse est une amitié de complémentarité la plus forte qui soit. Et donc, celle qui permet le développement le plus parfait des passions. Ce n'est qu'au plan contemplatif que la paternité et la maternité au niveau de la procréation à la place de toucher un développement le plus parfait devient quelque chose qui empêche un développement parfait de la contemplation et donc de la recherche de la vérité. Je connaissais un philosophe marié chrétien et qui me disait souvent, surtout à la fin de sa vie, combien de fois j'ai dit à des étudiants qui admiraient que j'étais à la fois père, marié et philosophe, je leur disais, si vous avez une vocation de philosophe, vérité est capable de polariser toutes nos énergies, toute notre vitalité en vue de la contemplation. Alors, qu'est-ce qui caractérise la paternité, source de vie, d'abord et en premier lieu, au niveau humain, au niveau de la nature humaine? Au sens strict, au sens métaphysique, de la personne humaine, la procréation n'est pas une finalité. Elle est finalité de la vie végétative. Elle est finalité de la vie passionnelle. Mais elle n'est pas finalité de la recherche de la vérité. Donc, elle ne nous donne pas une nouvelle fin, au sens strict, au plan métaphysique. Mais elle permet à l'amour d'amitié de se réaliser parfaitement. L'amour d'amitié, quand la recherche de la vérité s'impose, va nécessairement être appauvri par cette recherche de la vérité. Parce qu'on recherche la vérité seul. La contemplation nous met toujours dans la solitude à l'égard de Dieu. Et donc, la recherche de la vérité fait que l'amour d'amitié ne s'impose plus de la même manière. La vie commune dans l'amour d'amitié et la vie commune dans le mariage qui fait que l'amour d'amitié connaît à ce moment-là une certaine perfection. Je dis bien une certaine perfection qui est unique. Ça, c'est sûr. Et donc, il peut toujours rester à l'état de nostalgie à l'égard de quelqu'un qui comprend le primat de la recherche de la vérité. Il peut avoir cette nostalgie d'une amitié qui soit analogue, semblable à celle de l'amitié de l'époux et de l'épouse. Mais dans la mesure où il sera de plus en plus lucide dans les exigences de la recherche de la vérité, il comprendra que cet amour d'amitié de l'époux et de l'épouse demande, si on est parfaitement lucide, du choix qu'on fait, du primat de la contemplation, demande un certain appauvrissement dans l'ordre de l'amour d'amitié. Et voyez, c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que la paternité et la maternité vont développer la finalité de l'amour d'amitié d'une manière très très particulière. Ils formeront nécessairement deux types de personnes. Parce que cet amour d'amitié va avoir quelque chose de substantiel dans le don des corps, seulement d'une vie nouvelle, mais d'une personne humaine, par le point de vue de l'éducation. Alors, comprenons bien, c'est cet amour d'amitié qui va impliquer une fécondité. Fécondité d'ordre biologique, fécondité humaine, le point de vue biologique étant assumé en vue de l'éducation d'une personne humaine. Alors, on peut dire que cet amour d'amitié devient source de vie. Et ceci est choisi pleinement. C'est un choix de vie. Et parce que c'est un choix de vie, ça développe dans le père et la mère une amitié peut-être très forte, très grande, très intense, puisqu'elle est source de vie nouvelle. Source de vie nouvelle pour la procréation, source de vie nouvelle pour l'éducation. Un homme devienne une personne. Et alors, la recherche de la vérité, à ce moment-là, sera plus la recherche de la vérité au niveau pratique, sagesse pratique de la prudence. Sagesse contemplative. Dans certains cas, les deux peuvent s'unir, mais c'est au fond très rare. Et alors, ce fait d'être source de vie et source d'éducation au sens très fort, en vue de la personne humaine, fait qu'il y a comme finalité. C'est la finalité de l'amitié qui se prolonge dans la fécondité. La fécondité qui n'est pas l'efficacité, hein. La fécondité permet le rayonnement de la personne humaine, son dépassement. Fait que ce dépassement donne quelque chose de nouveau à la personne humaine. Pas simplement un équilibre, quelque chose de nouveau. Et cela fait comprendre le caractère tout à fait particulier de la fécondité. Et le dépassement de la fécondité par rapport à l'efficacité. La fécondité est liée à la personne. Alors, en étudiant la personne au plan métaphysique, je ne l'ai pas souligné. Je le souligne maintenant. Ce serait comme la huitième dimension. Extrêmement curieux et intéressant de voir que la fécondité donne à la personne humaine un caractère propre qui fait le père, qui fait la mère. Et ceci est inscrit dans notre vie végétative. Animal au très grand sens, sens biologique. C'est inscrit. Ce n'est pas inscrit au niveau de la recherche de la vérité. C'est ça qui est curieux. C'est inscrit au niveau de l'amour d'amitié au point de vue humain. réclame la fécondité. Demande la fécondité. Autrement, ça risque de tourner en rond. Indéfiniment. Il y a un ronron qui fait que ça ne peut pas grandir. L'amour d'amitié. Celui-ci. de paternité spirituelle au point de vue chrétien, mais il y a une paternité spirituelle au niveau humain, parce qu'il y a une sagesse philosophique. S'il n'y avait pas de sagesse philosophique, il n'y aurait pas de paternité spirituelle au point de vue humain. Enseigner les mathématiques, c'est très bien, mais ça n'engendre pas une paternité. Ça, c'est vrai. Vous avez des disciples pour la mathématique. Si vous êtes un très bon mathématicien, et vous n'avez pas de fils, de fille spirituelle, il n'y a pas de paternité. La paternité présuppose la communication de la sagesse. Alors les mathématiques ne nous donnent pas la sagesse. Parce qu'elles ne regardent pas le bien. Parce qu'elles ne nous donnent pas les exigences de la contemplation humaine. Alors il y a une paternité spirituelle et une maternité spirituelle pour la communication de la sagesse. Et alors là, on rejoint ce que je vous ai déjà cité, parce que ça m'avait beaucoup frappé quand le pape est passé à Fribourg, à l'université de Fribourg. Grâce à Dieu, je n'étais plus avec le corps professoral. Et je me suis mis avec les étudiants. Et le pape, après avoir montré ce que devait être Fribourg comme université d'orientation chrétienne et catholique, une étudiante, je ne crois pas qu'elle était commandée, une étudiante a posé la question au pape, très sympa, c'est très beau tout ce que vous avez dit. Comment se fait-il que nous avons de bons professeurs, mais nous n'avons pas de maîtres?